Europe 1, 14h-15h.
Clap. Margot Barallon.
Toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un des plus célèbres super-héros Marvel. Spider-Man tisse sa toile depuis près de 60 ans dans des comics, des séries et au cinéma, bien sûr. Le dernier film qui raconte ses aventures, Far From Home, vient d'arriver sur la plateforme MyCanal. Mais pourquoi l'homme-araignée est-il si populaire au point d'être aujourd'hui une véritable icône de la pop culture ? Que raconte-t-il de la société ? Comment l'inspire-t-il jusque dans des discours politiques ? Je vous raconte tout ça dans un instant et Xavier Fournier, spécialiste des super-héros, sera ensuite mon invité. À 14h30, c'est l'actrice Aïssa Maïga qui remontera le fil des films de sa vie. Elle nous racontera par exemple son meilleur souvenir en salle.
Loin de la civilisation empoisonnée, il fuit et seul arpente la terre pour se perdre en pleine nature.
La poésie tragique d'Into the Wild, réalisée par Sean Penn. Et pour découvrir les autres films de la vie d'Aïssa Maïga, rendez-vous donc à 14h30. En fin d'émission, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des dernières sorties DVD, VOD et sur les plateformes. On vous parlera d'Eléonore sur OCS, de Night in Paradise, film coréen disponible sur Netflix, du film d'animation Calamity Jane qui sort en DVD et de Je ne rêve que de vous, diffusé sur MyCanal. Voilà pour le programme de Clap et tout de suite le récit sur Spider-Man, le plus humain de tous les super-héros.
Europe 1. Le récit.
Sous ses airs d'éternel adolescent, Peter Parker, alias Spider-Man, s'apprête pourtant à fêter ses 60 ans. Nous sommes en août 1962 lorsqu'il apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy, édité par Marvel. Steve Ditko dessine son fameux costume rouge et bleu et Stan Lee lui invente une histoire désormais bien connue. Celle d'un jeune garçon mordu par une araignée radioactive qui va développer des super-pouvoirs.
Nous combinons l'ensemble du patrimoine de trois espèces dans ces 15 super-araignées génétiquement modifiées.
Il n'y en a que 14.
Je vous demande pardon ?
Il en manque une.
Ouais.
Le succès est immédiat et dès 1963, Spider-Man a sa propre série de comics. En France, il faudra attendre 1969 pour faire connaissance avec celui qu'on appelle alors l'homme-araignée ou araignée tout court. Mais aux États-Unis, Spider-Man va toucher un public bien plus large dès 1967. 88% des Américains sont alors équipés d'un poste de télévision et peuvent découvrir un générique resté dans les annales.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
C'est la toute première adaptation des aventures de Spider-Man en série télévisée. En France, TF1 la diffuse seulement 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, elle a pris un sacré coup de vieux. Le budget est minimal, l'animation très peu développée, et surtout, il existe alors un organisme de contrôle des histoires de super-héros. Le Comics Code Authority interdit par exemple de montrer de la violence ou du sexe, et oblige les auteurs à toujours faire triompher le bien face au mal. Mais dans les années 90, ce code n'est plus du tout appliqué. Une autre série, moins enfantine, beaucoup plus fidèle à l'univers des Marvel, voit donc le jour. L'époque est faste pour les comics, les jeux vidéo et les séries de super-héros. Batman, la série animée, vient de sortir. Les X-Men aussi ont eu droit à leur adaptation sur petit écran. Quand Spider-Man, l'homme-araignée, sort en 1994, le contexte est idéal.
Brock, plus tu me détestes et plus cette créature te contrôle.
Pourquoi dis-tu que Brock te déteste ? En réalité, il t'adore. Tu es même son ennemi préféré. La vengeance est un trait du caractère humain qui me plaît beaucoup. Je me vengerai de toi et tes proches aussi subiront ma colère.
Stan Lee, le créateur de Spider-Man, contribue régulièrement à la série. Et la popularité de l'homme-araignée ne cesse de grandir. Hollywood l'a vite compris et dès 2002, les aventures de Peter Parker sont adaptées au cinéma.
Qui je suis ? Je suis Spider-Man, j'ai une mission. Et je suis Peter Parker, et moi aussi j'ai une mission.
Sam Raimi, le réalisateur, arrive à saisir tout ce qui différencie Spider-Man des autres super-héros. D'abord, il est jeune. Lorsque Stan Lee a imaginé l'histoire d'un ado de 15 ans, encore lycéen, il a d'ailleurs pris un vrai risque. Peter Parker va à l'école. C'est le petit geek de la classe dont tout le monde se moque. Il est livreur de pizza et photographe en parallèle de ses études. Et surtout, comme des milliers d'ados dans le monde, il galère avec les filles.
Bonjour MJ. Je sais pas si t'es au courant, mais on est voisins depuis que j'ai 6 ans et je me demandais si on pourrait sortir ensemble un soir. On pourrait peut-être s'amuser un peu. Oh, j'en sais rien. Enfin, je pense que ce serait bien.
Peter Parker voit aussi son corps changer sous les effets de la morsure de l'araignée. Il doit apprendre à contrôler ses super-pouvoirs en même temps qu'il devient un homme. L'adolescence, cet âge si ingrat, trouve son illustration parfaite.
C'est bizarre. Mon pantalon a rétréci. Oh,
j'ai attrapé la puberté.
Attends, pourquoi la voix dans ma tête parle si fort?
Wow, tout va bien?
Quoi?
Pourquoi je transpire comme ça?
Pourquoi tu transpires comme ça?
C'est un coup de la puberté. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis pas en pleine puberté. Je l'ai eu, hein. Mais ça fait longtemps.
Je suis un homme, maintenant.
Finalement, Spider-Man est peut-être le plus humain de tous les super-héros. Le processus d'identification fonctionne à plein. Ce n'est pas pour rien s'il reste l'un des personnages Marvel préférés des fans, qui sont nombreux à emprunter son costume, par exemple au Comic-Con, le festival du comics.
Bah, moi, je ne me déguise pas parce que je suis Spider-Man, en fait. Du coup, je ne prends pas de plaisir parce que c'est mon métier, en fait. Je vais sauver les gens, des fois je meurs, des fois je meurs pas. On s'y habitue, hein, c'est comme une seconde peau, un peu.
Plus encore qu'un personnage auquel on peut s'identifier, Spider-Man est un modèle. Stan Lee a créé un jeune homme égoïste et un peu paresseux qui choisit de devenir un super-héros dévoué et responsable. Et Spider-Man ne combat pas uniquement des super-vilains. C'est aussi celui qui aide les petites vieilles à traverser la rue et qui arrête les voleurs de vélo.
Je veux dire, je crois que ce serait mieux pour l'instant que je fasse profil bas, que je me contente d'être la petite araignée sympa du quartier. Vous savez, il faut bien que quelqu'un s'occupe des gens de la rue.
Oui, je kiffe ce genre de héros prolétaire à la Bruce Springsteen. Happy va te ramener.
Merci, Monsieur Stark.
Oui, très bien, Monsieur Parker.
Un de ces jours.
Ça marche.
La petite araignée du quartier est tellement vertueuse que dans les années 70, le ministère de la Santé américain va passer un accord avec Stan Lee pour faire de Spider-Man une figure de la lutte contre la drogue. Le super-héros est un exemple pour les enfants. Sa morale, inscrite à la fin du tout premier comics de 1962, est reprise dans les films et d'ailleurs restée très célèbre.
Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Un super-héros toujours vertueux qui parle au peuple, Spider-Man avait tout pour inspirer nos politiques. Beaucoup ont donc repris la fameuse maxime sur le grand pouvoir et les grandes responsabilités. Emmanuel Morel, candidat socialiste à la primaire de la gauche en 2016, la ministre déléguée Marlène Schiappa pour parler du pouvoir de Twitter, ou encore François Ruffin, député France Insoumise, dans un discours à l'Assemblée nationale.
Dans le film Spider-Man, le super-héros énonce cet adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces firmes disposent d'une puissance qui égale et parfois dépasse les États. Elles ont entre leurs mains le sort de milliers, de dizaines de milliers de salariés, mais ne veulent aucune responsabilité.
Il ne faut pas oublier non plus que par rapport aux autres super-héros, Spider-Man n'a pas de pouvoir titanesque. C'est ça aussi qui le rend humain. Superman déplace des planètes. Thor, inspiré du dieu scandinave, contrôle des éléments comme la foudre ou le vent. Ils sont des élus, des créatures divines au pouvoir surpuissant. Là où Spider-Man est un jeune homme normal. Ses pouvoirs lui viennent par accident, il fabrique lui-même son costume et il est loin d'avoir la carrure d'un super-héros invincible.
Navré, y a pas de catégorie poids plume, mon lapin. Suivant.
Non, non, inscrivez-moi.
D'accord. Le NYWL ne sera pas responsable de vos blessures éventuelles, pour ne pas dire probables ou même certaines durant le match. Vous certifiez participer de votre plein gré?
Oui.
Descendez jusqu'au ring et que Dieu vous protège. Suivant.
Ce côté réaliste et ancré dans notre société s'appuie aussi sur un levier qui lui assure son succès, l'humour.
Cool, votre déguisement.
Merci.
D'où il vient?
C'est moi qui l'ai fabriqué.
Il n'a pas l'air très confortable.
Non, il me donne des démangeaisons. Il a tendance à remonter un peu à l'entrejambe.
là où Batman, à contrario, est une montagne de sérieux.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Mon visage sur un billet de banque.
Vous devez plaisanter.
J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante.
T'es cinglé.
La deuxième saga, avec l'acteur Andrew Garfield, aura moins de succès critique et public. Mais Hollywood, qui connaît l'attachement du public envers son héros, a tout prévu. Nathalie Chouraki, directrice de l'agence Casachoc, spécialisée dans les licences et les produits dérivés, l'expliquait au micro d'Europe 1.
Une licence comme Spider-Man, c'est ce qu'on peut appeler une licence pérenne. C'est-à-dire qu'elle existe depuis X années, on n'a pas besoin d'expliquer d'où il vient, où il va, quel est son contenu, etc. Il faut donc l'animer. On crée un événement. La sortie du film, elle est judicieusement placée au mois de mai, ce qui va permettre au DVD de sortir à la Toussaint et d'assurer une visibilité, une envie d'association avec le personnage jusqu'à Noël.
À partir de 2016, un troisième Spider-Man apparaît à l'écran, intégré dans la série des Avengers. Même humour, même souci de réalisme, et pour la première fois, l'acteur qui incarne Peter Parker, Tom Holland, a l'âge du personnage. En 2017 sort Spider-Man Homecoming, premier volet d'une nouvelle saga consacrée à l'homme-araignée. Peter Parker est un ado de sa génération, accro à son téléphone portable et aux réseaux sociaux.
New York, le Queens. C'est un quartier chaud, mais bon, c'est chez moi.
À qui tu parles ?
À personne. Je fais juste une petite vidéo du voyage.
Tu sais que tu dois la montrer à personne.
Ouais, je sais. Bon, il y a Captain America, Iron Man, Black Widow. Oh, c'est qui le nouveau là ?
Connor,
ah, c'est moi. Faut que j'y aille.
La recette fonctionne. Le film rapporte plus de 250 millions de dollars dans le monde et se permet quelques libertés. Le meilleur ami de Peter Parker, par exemple, est au courant presque immédiatement de sa véritable identité.
Oh, non, elle est au courant de rien.
Personne n'est au courant. Enfin si, Monsieur Stark, vu qu'il a fait le costume, mais y'a que lui.
Non, Tony Stark, t'as fabriqué ce truc.
T'es un Avenger.
Ouais,
on peut dire ça.
Bon, écoute, faut surtout t'en parler à personne. Il faut que ça reste secret.
Ok. Il faut que je t'avoue un truc. Je serais incapable de me taire, c'est le truc le plus énorme que j'ai jamais vécu.
Ned, Ned doit rien savoir. Tu sais comment elle est. Si elle découvre que des brutes essaient de me tuer chaque nuit, elle voudra plus me laisser sortir. Le dis pas, s'il te plaît.
Les créateurs de Spider-Man essaient donc d'inscrire leur héros dans son époque. Après l'élection de Barack Obama, en 2008, commence à germer l'idée d'un Spider-Man métis.
Je lance un avis de recherche pour un nouveau Spider-Man.
Le comédien Donald Glover est approché pour la deuxième saga, mais c'est finalement Andrew Garfield qui obtient le rôle. Dès 2011, Miles Morales, un jeune ado de Brooklyn afro-latino, fait son apparition dans les comics. En 2018, il a droit à son propre film d'animation, Spider-Man New Generation.
Allez, je vous la refais une dernière fois. Je m'appelle Peter Benjamin Parker. J'ai été mordu par une araignée radioactive et pendant les 22 dernières années, j'ai cru que j'étais le seul et unique Spider-Man.
Quand ce truc bizarre se produit. Et je peux vous dire que le truc bizarre, ça me connaît. Mais alors là, franchement, c'était bizarre.
Spider-Man est donc devenu cette indémodable icône pop depuis près de 60 ans. Il a su aussi évoluer en même temps que la société. Mais a-t-on encore besoin des super-héros en 2021 ? Pourquoi reste-t-il si populaire ? Pour en parler, j'accueille dans un instant l'écrivain et scénariste Xavier Fournier, ancien rédacteur en chef du magazine Comic Box, grand spécialiste des super-héros. Mais avant, on écoute un extrait de la bande originale du premier Spider-Man de Sam Raimi, The Hives, Hate to Say I Told You So.
14h-15h sur Europe 1, clap.
I'm gonna die. I feel what's the last of us, 'cause all I know is
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. Juste avant la pub, je vous racontais justement l'histoire de Spider-Man, le plus humain de tous les super-héros. Et pour en parler, j'accueille maintenant Xavier Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, scénariste, incollable sur les super-héros. Alors pour revenir d'abord à notre homme araignée, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui l'engouement pour Spider-Man, en particulier par rapport à ses autres collègues super-héros?
Je pense qu'il y a une sorte de rendez-vous accidentel qui est que quand les forces vives de Marvel ont lancé Spider-Man au début des années 60, ils ont fait plein de choix un petit peu aléatoires, mais qui ont été dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que d'un seul coup, pour la première fois, vous avez un super-héros qui est adolescent, teenager, et qui n'est pas l'assistant d'un héros adulte préexistant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des personnages comme Robin, l'auxiliaire de Batman, et il y avait toujours cette espèce de lien un peu boy scout où il y a le héros adulte qui explique aux jeunes comment faire. Là, on a le petit jeune qui est le propre héros de ses aventures, et qui apparaît dans une décennie où finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans les années 60, va y avoir cette jeunesse qui va être un petit peu en révolte contre les générations précédentes, qui va pas vouloir aller au Vietnam, qui va pas vouloir forcément faire des études de la même manière qu'on les faisait avant, qui va un peu entrer en ébullition. Et le fait que Spider-Man soit un héros adolescent qui, par la force des choses, souvent affronte des menaces, des criminels qui ont l'âge d'être son père ou son grand-père, dans la symbolique des choses, eh ben ça positionne non seulement Spider-Man, mais il faut bien comprendre qu'il y a Peter Parker qui fait tout l'intérêt de Spider-Man à l'intérieur du costume. Ça positionne le héros pour être ce symbole d'une jeunesse un peu qui n'est pas dans le même temps que les générations qui ont précédé.
Alors, Spider-Man, il a aussi eu droit à plus de films que les autres. Il y a eu 3 reboots, dont 3 sagas différentes en seulement 15 ans. C'est énorme. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de choses à raconter ou est-ce que c'est une pure logique commerciale?
Quand on sort des films, et surtout des films de ce budget-là, je me garderais bien de dire qu'il n'y a pas une logique commerciale derrière. Ça serait complètement naïf de pas le penser. Mais Spider-Man étant un héros de la jeunesse, plus souvent les studios essayent de se dire, si on change l'acteur, on va réinventer l'origine. Et c'est ce qui n'a pas forcément marché avec les deux films de la version Amazing Spider-Man, où fondamentalement, les premiers films avaient très bien vieilli, continuent d'être diffusés à la télé, et donc il y a plein d'enfants qui ça reste le Spider-Man de référence, et vouloir réinventer si tôt l'origine, c'est sans doute quelque chose qui n'était pas du tout nécessaire et qui a été interprété un peu comme quelque chose de concurrentiel avec le vrai Spider-Man.
Alors, la plupart des super-héros aujourd'hui commencent à être âgés. Hein. Spider-Man va sur ses 60 ans, Batman il en a 82, Superman bientôt 90. Qu'est-ce qui explique que tout cela n'ait pas encore pris leur retraite ?
D'abord, principalement parce qu'il y a un public qui continue de s'identifier là-dedans, et puis que par la force des choses aussi, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il y a plein de personnages, y compris de super-héros, qui ont fait leur temps, qui ont disparu, et comme ni le personnage n'a continué, ni le public n'est encore là pour se souvenir du personnage. Voilà, il y a plein de super-héros qui ont disparu sur le champ de bataille. La force quand même de Superman, Batman, Spider-Man maintenant, c'est qu'on arrive à un moment à une certaine vitesse de libération, c'est-à-dire que on a des personnages qui sont multigénérationnels. Dans certaines familles aux États-Unis et sans doute ailleurs dans le monde, il y a trois générations de lecteurs du personnage, qui fait que ça devient des sujets de conversation, que petit à petit, des personnages qui ont commencé comme des héros de la contre-culture sont devenus aussi finalement une culture intergénérationnelle, donc ce qui est un paradoxe par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Spider-Man. Mais fondamentalement, c'est devenu des sujets de discussion. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui sortir d'une projection d'un film Warner ou Disney de super-héros et en discuter comme entre différents spectateurs de la vie du film, ce qui n'était pas forcément le cas à une époque et jusqu'à peut-être 2 décennies en arrière, les films de super-héros c'était vraiment quelque chose qui visait un public spécialisé et c'était pratiquement presque un secret honteux.
Et alors, la question, ça peut paraître un peu paradoxal, mais est-ce qu'en 2021, ces super-héros, quand même, ils portent pas des valeurs un peu obsolètes? On peut se poser la question, quand on voit un Captain America qui est extrêmement patriotique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu daté? On se demande comment ils arrivent encore à épouser leur époque en étant au départ tellement ancrés dans la leur, donc plutôt les années 40 en ce qui concerne Captain America.
Ben, il faut comprendre un petit peu. Il y a souvent un risque de quiproquo avec le super-héros, c'est qu'on se dit que ce sont des outils de peut-être d'autosatisfaction du système, de propagande, que ça consacre la puissance des États-Unis. Mais souvent, ce sont des personnages beaucoup plus critiques que ce que nous on a en Europe. Voilà, c'est-à-dire que je trouve que les comics, en fait, ils ont beaucoup de voisinage avec le dessin de presse tel qu'on pratique en France. C'est-à-dire qu'ils sont sans doute plus proches parfois de Charlie Hebdo que de personnages comme Tintin ou des trucs comme ça. Il y a toujours une espèce de petit goût de poivre derrière la fiction pour expliquer quand même qu'il y a un fond de réalité et qu'il faut pas se satisfaire de ce qu'on nous explique.
Et est-ce que selon vous aujourd'hui on a encore besoin des super-héros?
Il y a deux réponses à cette question. On ne devrait pas en avoir besoin tant qu'on a besoin de se réfugier dans la fiction pour chercher des solutions à la réalité, c'est bien qu'il y a un problème. Mais les super-héros, je crois qu'il faut vraiment les prendre comme un thermomètre de l'état d'âme. Je crois que si on se replonge dans nos anciens cours d'histoire, on apprend un petit peu ce qu'était la culture grecque ou la culture égyptienne en s'intéressant à leur panthéon, alors que bien entendu il n'y avait pas vraiment de personnages comme ça qui existaient. Et fondamentalement, les super-héros, c'est une sorte de panthéon laïque qui permet un petit peu sous forme de fiction, sous forme de rébus, de parler un petit peu des choses qui nous animent et de fantasmes. Alors c'est pas vraiment qu'on rêve de personnages qui peuvent voler dans le ciel, mais la vraie fable des super-héros, c'est pas forcément le super-pouvoir, c'est imaginer que Superman ou Captain America, indépendamment de leur super-pouvoir, ils aient la puissance d'agir, mais qu'ils l'utilisent pour le bien. Et si tous les puissants du monde utilisaient cette puissance dans le sens du bien, je pense qu'on aurait un autre monde.
Très bien, merci beaucoup Xavier Fournier d'avoir accepté l'invitation de Clap. On va donc continuer d'espérer que les puissants de ce monde aient une moralité. Dans un instant, on se retrouve pour le questionnaire Les films de ma vie. On va plonger dans les souvenirs de cinéma de l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.